Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivant.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais vous présenter bien sûr mon invité du jour. Romancier pour notre émission Antiquissimo, mais pas que. Car mon invité, je dis son nom tout de suite et je le salue, c'est Roland Portiche. Bonjour Roland.
Bonjour Martine, bonjour.
Alors mon invité s'est d'abord fait connaître dans le monde du cinéma, de l'audiovisuel. C'est plus de 300 émissions, des documentaires, notamment tout le monde le connaît, Secret d'Histoire. Donc l'écriture, l'image, tout ça vous connaissez par cœur et ça vous a mené au bout de je ne sais combien d'années à avoir la démangeaison d'écrire des livres. C'est votre 9e livre et votre 6e roman, je crois.
Eh oui.
Alors ce sixième,
c'est ça. Non, mais peut-être même mon 12e livre,
Les
essais, parce qu'il y a des essais.
Oui, voilà. Donc là, je ne vais pas tout détailler, mais la production est abondante. Avant de, je cite tout de suite le nom du roman qui m'intéresse aujourd'hui, c'est Bérénice. Il n'est pas encore sorti, il va sortir. Il est sous presse, comme on dit. Bérénice, la juive qui voulait régner sur Rome. Mais quand les auditeurs vont entendre cette émission, eh bien, ils pourront se précipiter pour acheter ce roman dont nous allons parler aujourd'hui. Mais d'abord, une première question. C'est lié l'envie d'écrire à votre carrière de réalisateur, de scénariste, de producteur de documents.
Oui, bien sûr, mais c'est aussi lié à la difficulté de faire tout ce qu'on a envie à la télévision. Là, avec Bérénice, j'avais la possibilité, avec l'écriture, de faire un grand spectacle comme je les aime, ce qui n'est pas très facile à faire à la télévision. Donc j'ai fait beaucoup, beaucoup de documentaires, mais qui restaient dans des dimensions modestes. Là, c'est vrai que je me lâche un peu dans la littérature. J'ai déjà fait un roman sur l'aventure des croisés, là je fais un roman sur Bérénice, et c'est vrai que je retrouve là le plaisir que j'avais quand j'étais jeune, quand je m'éclatais devant les péplums, puisque moi, comme Claude Aziza, je suis un noble du péplum. J'en ai vu des centaines et je pense que ça doit se sentir un petit peu
dans le livre. C'est ce qui vous a rapproché puisque je vous ai rencontré sur un tournage justement de Secret d'Histoire consacré à Cléopâtre. Donc oui, cette passion que vous avez en commun avec Claude Aziza, elle est précieuse et elle vous a mené donc du monde de l'image au monde du récit qui interfère l'un dans l'autre. Et quand vous étiez tout petit, alors vous intéressiez déjà à l'histoire et à l'histoire antique?
J'avais deux petites manies, c'était l'histoire et la science-fiction. Je suis un garçon des années 50-60, et donc on découvrait en même temps l'histoire et la science-fiction. Parce que la science-fiction, c'était quelque chose d'un peu neuf. La science-fiction, j'ai eu de la chance, parce que quand j'ai commencé à travailler pour la télévision, j'ai rencontré les frères Bogdanov, j'ai monté avec eux cette émission un peu culte aujourd'hui, qui s'appelle Temps X. Ce qui fait que ce que j'ai écrit par la suite, c'est un peu dispatché entre la science-fiction et puis mon amour pour l'histoire, qui tenait, je vous le répète, à la grande mode du péplum qui me fascinait quand j'étais jeune.
Et alors, petite question qui fâche, avez-vous fait du latin dans vos jeunes années?
Oh oui, bien sûr, je n'étais pas terriblement bon en latin. Mais bon, je suivais, quoi.
Bon, mais de toute façon,
j'en ai fait un peu.
Oui, je peux vous dire que votre niveau de latin d'antan est largement supérieur au niveau d'aujourd'hui. Mais bon, ça, il ne faut pas trop le dire encore. Donc oui, vous avez écrit beaucoup. Mais quand j'observe, je n'ai pas tout lu de vos livres, bien sûr, mais quand j'observe les titres, je vois effectivement un amour pour la réflexion sur le temps, sur l'histoire récurrente, sur les temps anciens, les temps nouveaux, les temps futurs. Par exemple, vous êtes connaître avec une trilogie qui avait à voir avec Ernetti, un musicologue, moine, exorciste italien.
Oui, et en effet, d'ailleurs, c'est une des raisons qui en fait que j'en suis arrivé à Bérénice, parce que j'ai donc écrit une trilogie qui s'appelle la saga Hernetti, dont le premier tome, qui s'appelait La machine Hernetti, se déroulait à l'époque de Jésus. Évidemment, ça m'a mis un petit peu dans l'ambiance, puisque le personnage principal, qui était un prêtre italien qui avait inventé une machine à voir dans le passé, était commis par le pape à cette époque-là pour essayer d'apporter des preuves visuelles de l'aventure de Jésus. Donc j'ai beaucoup travaillé cette période. Il se trouve que par ailleurs, comme je suis téléaste, j'ai fait une série d'émissions scientifiques avec François de Closet et certaines de ces émissions ont été consacrées à l'archéologie biblique. Donc je suis allé plusieurs fois en Israël avec des spécialistes, des historiens, et donc je connais assez bien le terrain. C'est le privilège que peuvent avoir les réalisateurs de télévision. J'ai fait aussi un secret d'histoire sur Jésus, donc je connais bien cette période et ça m'a aidé évidemment
à me plonger
dans Béris.
Voilà. Et ce qui fait que ce que nous sommes en train de dire montre que tout est dans tout, puisque si je regarde, vous êtes diplômé de l'Institut des hautes études cinématographiques, vous êtes docteur en philosophie, vous êtes licencié en lettres, tout ça se rejoint dans ce creuset de cette époque qui va nous fasciner pour l'étude de ce roman, à savoir le premier siècle. Donc, donc ça, c'est un domaine que vous connaissez bien, et géographiquement et historiquement, si je puis dire. Et donc, vous êtes lancé dans cette aventure d'écrire. Et je trouve que c'est un sacré défi, parce que je vais lire la dédicace que j'ai trouvée magnifique. C'est un défi parce que voilà ce que vous écrivez en dédiant le roman à votre ami Jean-Marc Ganassia. Vous dites « qui m'a convaincu que Suétone, Flavius Joseph et Jean Racine n'avaient pas tout dit ». Ben, je trouve que c'est merveilleux parce qu'effectivement, vous êtes inscrit dans des creux d'une histoire que tout le monde croit connaître.
Oui, Jean-Marc Ganassia était venu me voir, au départ c'était une commande, Bérénice. Il est venu me voir pour me proposer, parce que oui, il est producteur de cinéma, il voulait faire une série télévisée sur Bérénice. Alors, c'était une très bonne idée, parce qu'effectivement, il n'y avait pas eu grand-chose. Simplement, en plus, tous les ingrédients y sont, hein, pour faire une sorte d'autant en emporte le vent. De la Judée du 1er siècle. On a une femme avec un personnage très fort qui peut faire penser par certains côtés à Scarlett O'Hara. On a une période dramatique, des personnages passionnés, un amour impossible. Tout ça est très bien, mais pour une série télévisée, le projet nous a paru un peu lourd pour le lancer comme ça de but en blanc. Donc on s'est dit, il vaut mieux peut-être auparavant qu'il y ait un préalable. Et le préalable, c'était le roman. Et évidemment, comme je connais assez bien cette période, à cause donc de Hernetti et de mes documentaires de télévision, ben je me suis lancé là-dedans. C'est allé assez vite, d'ailleurs, parce que j'avais vraiment toute la documentation disponible, et notamment, évidemment, les écrits de Flavius Joseph. Voilà, ça m'a permis de faire ce roman. Et on verra bien si le roman débouche sur autre chose. Mais j'ai écrit le roman comme si c'était une série télévisée quand même, avec des scansions qui peuvent faire penser aux séries d'aujourd'hui, donc d'une manière assez moderne, et avec des chapitres assez courts, qui pourraient fournir une base plausible pour une série télévisée.
Alors ce qui est amusant, c'est que vous allez au-devant de toutes mes questions, parce que justement, j'allais parler de ces projets, de cette écriture que je trouve effectivement, je lirai quelques extraits très cinématographiques, et cette manière très alerte et très découpée aussi de mener votre histoire avec 73 chapitres, c'est énorme, hein, dans lesquels, eh ben c'est là le challenge pour le lecteur cette fois-ci, dans lesquels il sera peut-être difficile de démêler ce qui est vraiment l'histoire, avec un grand H, et de ce qui est l'histoire avec un petit H, c'est-à-dire la part d'invention, de fiction. Mais effectivement, vous avez choisi quelque chose qui n'est pas facile, puisque Bérénice, tout le monde connaît en gros l'histoire, mais il ne fallait pas se contenter d'être en gros. Et est-ce que tout le monde la connaît vraiment? À quoi ressemblait-elle? Ce n'est pas si évident. Est-ce qu'on sait à quoi elle ressemblait?
Non, on ne sait pas à quoi il ressemblait, on n'a aucune image d'elle. Simplement, si on se fie à Suétone, qui nous dit que Titus est tombé instantanément amoureux d'elle, on peut imaginer qu'elle n'était pas repoussante. Alors, moi, j'ai suivi la tradition de ce côté-là, et j'en ai fait une très belle femme. Je me suis, pour vous dire mon petit secret, je me suis servi du portrait Dans Wikipédia, j'ai lu un article sur les yeux d'Elizabeth Taylor.
Ah.
Et je me suis dit, si je lui donnais les yeux d'Elizabeth Taylor. Vous savez que Elizabeth Taylor avait un regard tout à fait particulier. Non seulement elle avait des yeux qui tiraient sur le violet.
Sur le violet, oui.
Extrêmement séduisant, mais elle était affectée d'un petit défaut génétique qu'on appelle la dystichiase.
Oui.
C'est une double rangée de cils. Une double rangée de cils, elle avait deux fois plus de cils que les femmes ordinaires. Et la deuxième rangée de cils, au lieu d'être tendue vers l'extérieur, elle est recourbée vers le globe oculaire, ce qui d'ailleurs peut occasionner quelques irritations pour la malheureuse. Mais ça donne à son regard une sorte d'écrin de cils noirs qui encadre un regard bleu-violet qui est absolument séduisant et qui fait que, évidemment, il était très difficile de ne pas être attiré par ses yeux qui étaient exceptionnels. Alors, je ne dis pas que c'était les yeux de Bérénice, je n'en sais rien, personne ne connaît les yeux de Bérénice, mais ça pourrait expliquer quand même la séduction spontanée qu'elle dégageait.
Alors, moi, sur le podcast, les auditeurs verront que, comme les images que j'ai choisies, il y a une belle image de vous-même, de la couverture de votre livre qui est magnifique, et aussi un buste présumé de Bérénice découvert dans la villa des Papyrus à Herculanum. Donc, présumé, ça veut dire effectivement que beaucoup de gens ont peut-être fantasmé sur ce personnage dont on dira à la fin de cette émission que, même sur sa fin aussi, il reste des zones d'ombre et des mystères. Mais je reviens à votre livre, à la manière dont vous l'avez découpé et cette manière si vivante de raconter. Donc, un nombre de chapitres très courts, très toniques que j'ai énumérés, dont j'ai donné le chiffre tout à l'heure. Et puis, ils sont insérés dans 8 parties. Alors, pourquoi 8 parties? Je les nomme, hein, l'ambassade à Caligula, Isis Osiris, Vent de l'Orage, Seul contre Rome, un général nommé Titus, parce que tout ne commence pas avec l'histoire de Titus, ça commence même dans un autre pays, Alexandrie, puisque c'est une femme dont on peut supposer, comme beaucoup de femmes de rang royal, je pense à Cléopâtre, même si on n'est pas du tout dans la même époque, qui parle beaucoup de langues. Et on peut imaginer que là, bien sûr, elle parle latin, elle connaît Rome, elle est née à Rome, elle parle grec, sans doute, elle parle hébreu et sans doute égyptien aussi, hein, on pense.
Oui, il faut dire que d'abord, 8 parties, bah, la réponse est... Et un peu évidente, ça pourrait être 8 épisodes,
voilà,
d'une série. À la vérité, j'avais commencé à découper l'histoire en 8 épisodes, puisque j'avais commencé à travailler sur la série. Ensuite, on s'est rendu compte que le spectacle était tel qu'il valait mieux peut-être en passer par le roman. Mais voilà, ça pourrait tout à fait être 8 épisodes qui sont à peu près équivalents en temps, qui pourraient faire 8 épisodes de 52 minutes, avec des ajouts peut-être d'éléments supplémentaires, mais et qui se terminent à chaque fois sur un suspense. Donc, et puis, il faut dire que la vie de Bérénice a été extrêmement riche. Elle a vécu une période extrêmement chargée. Elle a commencé son histoire à l'époque de Jésus, parce qu'elle est née en 28.
Oui.
Donc, quand elle est née, Jésus était encore là. Elle avait 5 ans quand Jésus a été crucifié. Et puis, cette histoire s'est poursuivie jusqu'à cet épisode qu'on appelait la guerre des Juifs, hein, d'après le titre du livre de Flavius Joseph. Voilà, qui était la grande rébellion qui couvait déjà, hein, à l'époque de Jésus. On voit bien que Judas était sans doute un zélote. Enfin, on sentait que ça couvait cette révolte qui avait même déjà eu en l'an 6, quand Jésus était encore jeune, il y avait eu en l'an 6 une première révolte. Et ça couvait tout au long du siècle parce que Rome a envoyé à Jérusalem des procurateurs qui étaient les pires voyous de la terre.
Oui, des gros nuls, on dirait. Hein, voilà.
Ah, des gros nuls qui n'avaient qu'une envie, c'était de se servir dans le trésor du temple, enfin bon, et qui ont commis
pires gaffes, parce que tout aurait pu passer s'ils n'avaient pas commis certains sacrilèges. Alors, je m'aperçois que je n'ai pas donné tous les noms des parties. Donc, je m'étais arrêtée au général nommé Titus, tempête sur Jérusalem, reine ou concubine. Et puis, la huitième partie, malgré lui, malgré elle, et formule très célèbre qu'on va retrouver traduite chez Racine aussi, mais qui est une formule empruntée à Suétone. On va marquer une petite pause musicale. Et puis, on se retrouve pour évoquer quelques personnages qu'on rencontre dans ce roman foisonnant. À tout de suite. Alors après cette pause musicale où on n'avait pas quitté Bérénice du reste, eh bien on retrouve notre invité passionnant Roland Portiche et son roman Bérénice, la juive qui voulait régner sur Rome, tout ça dans Antiquissimo et sur Radio Alliance Plus bien sûr. Donc dans ce roman alerte, documenté, puisque vous appuyez sur des sources, bien sûr, et puis dans les creux, vous avez des parts d'invention extraordinaires. Je voudrais d'abord lire, je n'aurai peut-être pas le temps de lire tous les extraits, tellement on a de choses à dire que j'avais sélectionné, mais pour donner une idée de votre patte de romancier et le fait que la réflexion n'est jamais bien loin. Nous sommes au début du chapitre 17 à la page 95. J'ai oublié de mentionner que l'éditeur est Fayard. Et ça commence ainsi. Les années 50 de l'ère commune. Parfois, sous la domination romaine, certaines histoires d'amour se terminaient en cauchemar. Ce fut le cas de la rencontre inopinée du procurateur romain Antonius Felix avec la princesse Drusilla, la petite sœur de Bérénice, devenue l'une des plus belles femmes de Palestine. Prenons l'histoire comme elle commence. En l'an 52, Félix devint procurateur de Judée, succédant à Ventidius Cumanus de triste mémoire. Félix, disons-le tout net, ne valait guère mieux. C'était le frère du puissant Pallas, le trésorier de la famille impériale, un des hommes les plus riches de Rome. Je pourrais continuer, bien sûr, mais je m'arrête parce qu'il faut que je puisse dialoguer avec vous, Roland. Donc là, on est dans le cœur du sujet qu'on évoquait. Et on rencontre la sœur de Bérénice dont vous parlez beaucoup parce qu'elle a une certaine importance aussi dans le roman. C'est une femme aussi à caractère féminin extraordinaire.
Elle a vraiment existé. On dit qu'elle était encore plus belle que Bérénice, si c'était possible. Elle était un peu plus jeune, évidemment un peu plus naïve. Et elle a rencontré, pour son malheur, le procurateur Félix, qui était effectivement un des voyous dont j'ai parlé, et qui a voulu faire main basse sur elle, alors qu'elle était déjà promise. Elle était déjà mariée ou promise, en tout cas, au mariage avec un roi client de Rome qui s'appelait Aziz. Et donc, Bérénice était évidemment très méfiante vis-à-vis de ce type qui avait qu'une envie, c'est de profiter de sa sœur. Et alors, on dit, mais ça c'est vrai, hein, on dit que le procurateur Félix aurait fait appel à ce personnage qui existe dans les évangiles, qui s'appelle Simon le magicien, et
Oui.
qu'il aurait demandé à Simon le magicien de fabriquer une sorte de filtre d'amour qui devait être une sorte d'aphrodisiaque. Et grâce à ce filtre, il a enlevé Drusilla, qui s'est évidemment séparée et très fâchée avec Bérénice. Mais plus tard dans le roman, vous verrez, elles finiront par se réconcilier.
Voilà.
Mais la séparation a été très difficile.
Oui, alors on va pas tout raconter, mais on sait qu'elle a une importance aussi à la fin de l'histoire, en effet. Et bien sûr, elle vit désormais en Italie. Donc vous la situez à Tarquinia, hein. Vous dites qu'elle habite Tarquinia.
Oui, parce que d'abord, je connais Tarquinia, j'ai fait. Vous savez, la télévision mène à tout, hein. Autant parler de ce qu'on connaît, et j'ai fait deux reportages à Tarquinia, qui est un
Ah,
lieu
c'est
tout à fait
magnifique.
étonnant,
Ah oui.
qui n'en reste pas grand-chose, juste quelques pierres, mais c'était un des hauts lieux des Étrusques, et en particulier les restes d'un temple qui. Et puis, il y a surtout aussi les tombes des Étrusques, qui sont assez extraordinaires, et qui montrent quel monde a précédé le monde romain, qui est un monde un peu dur, un peu difficile. Le monde des Étrusques était un monde
Apaisé.
beaucoup plus apaisé. Et c'est vrai que ça fait plaisir à Drusilla et à Bérénice quand elles visitent ces tombes, où on voit des fresques absolument magnifiques, où les gens célèbrent la vie après la mort.
Donc c'est vrai que moi aussi je me suis régalée à revivre ces sites de Tarquinia, ce site de Tarquinia que j'aime beaucoup aussi. Et donc grâce à ce personnage féminin de la sœur de Bérénice, il y a son frère aussi, Agrippa le roi, qui a une grande importance, mais peut-être ne pourrais-je pas trop en parler faute de temps. Oui, on rencontre beaucoup de réflexions sur ces aspects de l'Antiquité, comme les Étrusques, effectivement, vous y passez un petit peu de temps. On rencontre Paul aussi. Et d'ailleurs, vous signalez que dans l'histoire, on représente le procès de Paul en présence justement d'Agrippa et de Bérénice, je crois.
Oui, c'est noté dans les Actes des Apôtres, donc c'est une vérité historique. Bérénice était présente avec son frère Agrippa II au procès de Paul. Paul avait eu des ennuis avec les Juifs de Jérusalem parce qu'il avait permis à des non-juifs d'entrer dans la cour du temple. Enfin, bon. Et il y a eu un procès de Paul, et Bérénice a assisté à ce procès. Et moi, ça m'a beaucoup intéressé parce que, vous savez, je crois que tout le problème de Bérénice, en tout cas au moins jusqu'à la guerre des Juifs, ça a été de trouver, de jouer un peu les intermédiaires entre le pouvoir romain et puis son pouvoir de reine juive, de trouver un pont entre les deux cultures pour éviter le massacre, parce qu'elle le sentait venir, le massacre. Elle le sentait, ça bouillait, ça bouillait. Et alors, elle voit Paul qui met au point une sorte de nouvelle religion, puisqu'il est parti évangéliser les païens, et elle se dit, et si le christianisme pouvait servir un peu de pont entre
Oui.
les deux cultures. Et elle va voir Paul en essayant, mais maladroitement, elle lui propose de le payer.
Oui,
Elle lui
c'était pas ce
propose de
qu'il
le
fallait lui
payer pour.
proposer.
Vous savez, pas avec Paul, ça marche pas avec Paul.
Et
Et
alors,
donc Paul l'a
justement,
renvoyé.
c'est ça qui est fabuleux aussi, c'est que dans votre livre, comme à l'époque, vous venez d'en parler avec Bérénice, qui a une conscience politique, semble-t-il, aiguë, eh bien, elle s'interroge sur la survie du judaïsme. Est-ce que ça ne passe pas justement par laisser place au christianisme? Il y a beaucoup de choses qui, certainement, on l'imagine, ont été dans sa tête. Bien sûr, on ne
Ah
pourra
oui.
pas faire l'impasse sur ce merveilleux Flavius Joseph. Moi, j'ai une affection particulière pour lui. Un malin, un conteur, un amoureux, on va pas raconter son histoire ici parce que il faut que les auditeurs lisent absolument ce livre, mais nous plonge vraiment dans tous les problèmes qu'ont rencontrés ces milieux judaïsants, que ce soit en Judée, leur terre de tout temps, ou que ce soit à Rome.
Ah oui, cette période, c'est vraiment le carrefour des civilisations. Beaucoup de choses sont décidées là. D'abord, la diaspora du peuple juif, hein, qui a aujourd'hui encore, bah, évidemment, des conséquences, qui est à l'origine de la création de l'État d'Israël. C'était la première Shoah,
Eh oui.
cette catastrophe, cette destruction du temple. Donc il y a eu ça, et puis il y a eu aussi effectivement la naissance du christianisme. Donc beaucoup de choses sont décidées à cette époque. Et je pense que c'est vrai qu'on a pu penser à un certain moment que le christianisme était un judaïsme à la portée des païens, un judaïsme simplifié, qui préconisait pas les interdits alimentaires ni la circoncision, et que, bon, je pense que après la destruction du temple, un certain nombre de juifs, et d'ailleurs l'un d'eux pose la question au roi Agrippa, est-ce que
Oui,
c'est fini? Est-ce que le judaïsme est
oui.
fini? Et puis non, le judaïsme n'est pas fini, puisque un autre judaïsme va commencer, qui sera le judaïsme de la synagogue, et qui sera plus celui du. À l'ancienne, d'un grand temple, comme le faisaient les civilisations antiques.
Alors voilà,
Ce sera un judaïsme plus intériorisé.
tous les fils de cette histoire, alors à la fois mêlés de faits historiques et de choses que vous y ajoutez, introduit cette réflexion bah, sur notre monde d'aujourd'hui aussi. Hein. Et puisque je vois que le temps avance terriblement et qu'on est à la fin de notre émission, je voudrais dire que il y a des interprétations vraiment merveilleuses dans votre livre. Vous imaginez par exemple, parce que je n'ai pas parlé de Titus, il faut lire le livre, je ne peux pas en 2 minutes évoquer. Évoquer Titus, je pourrais simplement dire que on voit Domitien qui n'est pas très sympathique, je ne l'aime guère, mais
Pas très.
et profondément anti-Bérénice si ce n'est antisémite. Donc tout ça apparaît dans le livre. Mais ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est comment vous interprétez la volte-face de Titus qui avait promis à Bérénice des monts et des merveilles, mais surtout d'en faire une impératrice. Et puis finalement, vous montrez que la catastrophe du Vésuve, d'une part. Un incendie terrible, d'autre part, une peste qui va se déclencher. Tout ça va faire que Titus est ébranlé. Il se dit, mais c'est les dieux qui, quelque part, nous punissent. Je ne peux pas faire ce que je m'apprêtais à faire. Et donc, il va, inuitus inuitam, révoquer, on va dire, Bérénice. Et du coup, vous donnez un autre éclairage à cette histoire. Donc là encore, on est dans l'histoire avec un grand H et dans votre histoire avec un petit H passionnant.
Oui, parce que pour Racine, c'était uniquement la raison d'État, mais c'est un peu abstrait la raison d'État. Il s'est passé autre chose, et évidemment, j'ai sauté sur la date, puisque cette séparation s'est passée en l'an 79,
Voilà.
et pour tout le monde, 79, ça évoque quoi? Pompéi,
Voilà. Alors
évidemment.
justement, on va terminer là-dessus parce que nous n'avons plus le temps, mais qu'est devenu Bérénice, on ne sait pas. Claude Aziza imagine dans son imaginaire à lui aussi que peut-être elle était une victime de Pompéi, on ne sait pas. Mais en tout cas, mystère et boule de gomme, elle a disparu, mais elle est toujours là dans nos cœurs. Merci beaucoup pour ce beau roman, Roland Portiche, et à très bientôt.
Merci à vous, Martine.
Au revoir.